Et au Lambert Café, avec grand, grand plaisir, j'accueille Michel Jean. Bonjour Michel.
Oui, bonjour Justine, bonjour tout le monde.
Michel, qui est chef d'antenne, animateur, reporter d'enquête, écrivain, qui est un chic type que j'ai connu davantage parce qu'il y a quelques années, on a eu le plaisir de faire une émission tête-à-tête ensemble et je l'ai découvert un petit peu plus et apprécié beaucoup, beaucoup. Michel, la place d'auteur a toujours eu une place importante, mais là, il en prend encore plus, hein, je pense.
Oui, parce que les livres, en fait, me permettent de parler de choses qui sont importantes pour moi. Parce que dans notre travail de journaliste, vous le savez, Jocelyne, ce qui est important, c'est l'intérêt du public. On choisit les sujets en fonction de ce qui compte pour les téléspectateurs ou les auditeurs. Mais quand j'écris des livres, je peux choisir des sujets qui sont plus personnels, parler de sujets qui sont plus personnels, que moi j'aime ou qui ont de l'importance pour moi. Alors, plus ça va, plus cet aspect-là devient important.
Et les derniers livres, vous avez tenté de sensibiliser davantage les gens aux enjeux autochtones. Je me trompe-tu?
Non, parce que, bon, les gens le savent peut-être parce que j'en parle plus maintenant. J'en parlais pas avant beaucoup, mais moi, je suis Innu par ma mère. Et évidemment, mon premier livre où j'ai parlé de ces questions-là, c'était Elle Innu. Là, je parlais vraiment d'identité, de ma famille, etc., de toutes les questions qui avaient rapport avec la culture Innu d'un plan personnel. Mm-hmm. J'ai écrit après ça un roman qui racontait l'histoire des pensionnats autochtones, qui s'appelle mm-hmm. Le vent en parle encore. Et puis là, j'ai voulu faire un roman qui raconte l'histoire des Innu. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression que les Autochtones, ils vivent dans des réserves, que ça a toujours été comme ça, alors qu'en réalité, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Les Autochtones vivent sur des réserves depuis pas si longtemps que ça. Et à partir de l'histoire, dans le fond, de ma famille, je raconte comment ça s'est fait, la sédentarisation forcée, comment c'est arrivé, puis quelles conséquences sociales ça a eu, et les problèmes sociaux que ça a généré. Ce qui fait que quand on voit ça, on comprend peut-être un peu mieux c'est quoi la situation qu'on voit dans certaines communautés autochtones actuellement, avec les problèmes sociaux, la violence, etc. Mais donc, fait que je voulais raconter cette histoire-là, puis la raison pour laquelle je le fais, c'est que si nous, les Autochtones, on la raconte pas, personne ne va la raconter parce qu'elle n'est pas dans les histoires. Alors, je me sens un peu la responsabilité de raconter cette histoire-là.
Et comment tu l'as fait, Michel, de raconter cette histoire-là? Les recherches, comment ça s'est passé dans la famille, avec les Innu aussi? Comment ça s'est passé?
Ben, il y a deux ou trois manières, en fait. À la base, il y a beaucoup de témoignages qui viennent de... Comme évidemment, l'histoire part de l'histoire de mon arrière-grand-mère, Almanda Simeon, que j'ai connue parce qu'elle est morte quand j'avais 17 ans. Elle avait été... J'ai été enterré la journée où j'avais mon bal de finissant de la polyvalente secondaire.
Ah oui,
mon
Dieu.
Et donc j'ai eu beaucoup de témoignages personnels que je me souviens, que ma mère m'a raconté, les cousines, les tantes. J'ai aussi compté sur, il y a un moment donné, un livre qui a été fait par une maison d'édition de Saguenay-Lac-Saint-Jean avec la sœur de ma grand-mère qui racontait sa vie. Et là, dans ce livre, il y a beaucoup d'éléments qu'elle a raconté de leur jeunesse, que j'ai pu puiser, ça retrace. Puis il y avait des témoignages, comme par exemple comment mon arrière-grand-mère, qui elle était une blanche, a rencontré mon arrière-grand-père, qui était un Innu qui ne parlait pas français. Elle raconte là-dedans, mon arrière-grand-tante, comment sa mère lui a conté comment ça s'est passé. Donc, j'avais des témoignages quand même, tu sais, de gens proches qui savaient l'histoire. Et j'ai utilisé tous ces éléments-là pour retracer pas mal l'histoire. Une partie, évidemment, entre les faits, qui est de la fiction, parce que je sais comment ils sont rencontrés, mais il y a des éléments que je sais pas, donc il y a une partie qui est romancée à partir du caractère de chacun. Alors, c'est un roman, mais c'est un roman qui est ancré, si on veut, dans des faits vécus, puis qui raconte une histoire qui est une histoire vraie.
Koukoum, ça veut dire quoi?
Grand-mère.
Grand-mère.
En langue innoue.
Est-ce que c'était la mère de Jeannette Siméon dont tu parles dans le livre Le vent en parle encore?
C'était dans Elle Innu, je parlais de Jeannette. C'est la mère de
Elle Innu, oui, c'est
Jeannette. Ouais, c'est la mère de Jeannette qui est dans Elle Innu. Puis d'ailleurs, il y a des extraits de dialogues que j'ai repris dans Elle Innu parce que c'est la même histoire à un certain moment donné, mais racontée d'un point de vue différent. Au lieu d'être racontée par la fille, elle est racontée par la mère. Certaines scènes. Alors, les deux romans s'entrecroisent à un certain moment. Mais ouais, c'est un peu comme une histoire qui se passe avant celle de Linus. Dans ce cas-ci, c'est la fille, non pas la... C'est-à-dire, c'est la mère, non pas la fille qui raconte l'histoire. Et vraiment, c'est à travers les yeux d'Almanda.
Koukoum reçoit un très bel accueil des lecteurs québécois. Mais là, il faut parler de cette belle nouvelle, Michel. Les titres des 8 romans québécois présélectionnés dans la course au prix littéraire France-Québec 2020 sont connus. Et parmi ceux-ci, il y a Koukoum de Michel Jean. D'abord, bravo.
Merci.
Comment ça va se passer? Je pense que c'est en mars, du côté de Paris. Vous allez...
c'était au Salon des livres de Paris. J'étais allé il y a 2 ans. En fait, il y a 8 livres qui sont sélectionnés. Puis après ça, en mars, il en sélectionne 3 finalistes. Mmh. Puis au Salon des livres de Montréal, ensuite, il sélectionne le gagnant. Fait qu'on verra, mais la qualité des livres retenus est vraiment élevée. C'est des auteurs que j'aimais, que je connais.
Oui.
Fait que moi, en soi, c'était juste déjà un honneur d'être là. Je me demandais si j'étais déjà content de me retrouver là. Et puis surtout, c'est pour moi, c'est une manière de... une forme de reconnaissance, parce qu'en réalité, tu écris le livre, tu sais jamais comment ça va être reçu. Que le public l'aime, c'est une chose, mais qu'il soit considéré pour un prix aussi prestigieux, moi, ça fait ma journée. Puis en même temps, je l'accueille avec... avec humilité. C'est comme un cadeau. Là.
Ce prix littéraire France-Québec sera évidemment accompagné d'une bourse et puis d'une tournée aussi dans l'Hexagone, ce qui peut être intéressant.
Vraiment. Ça c'est vraiment un des aspects. C'est que le lecteur, l'auteur qui gagne, c'est une genre de tournée. J'ai un ami qui l'avait gagné il y a quelques années. C'est une tournée de France où là, on se promène puis il y a des rencontres avec les lecteurs. Donc, tout ça, c'est super. Mais bon, on verra la suite. Pour l'instant, je suis en train de sélection. Je sais pas, ça va être quoi la suite. Il y a un comité, les gens lisent le livre, en discutent, vont déterminer qu'est-ce qu'ils préfèrent. Puis comme je disais, tous les livres qui sont sélectionnés, c'est tous des excellents romans, c'est tous des auteurs qui sont très réputés. Fait que juste d'être là, moi, déjà, en soi, c'est une victoire. D'autant plus que Koukoum sort, en France à la fin du mois de janvier. Il y a une version donc qui sort chez une maison d'édition qui s'appelle Des Paysages. Fait que c'est comme un bon timing pour moi parce que le livre arrive avec une belle carte de visite en France déjà. Alors quand ils m'ont annoncé ça, ma maison d'édition, là, j'étais dans mon auto, j'ai dit wow.
C'est un beau cadeau de Noël.
Oui, j'étais content parce que moi je dirais c'est sûr que quand t'écris t'écris avec ton cœur, t'écris des histoires qui tiennent à cœur. Puis t'es toujours content quand les gens les aiment. Tu sais, quand on... Il y a tellement d'auteurs, il y a tellement de gens talentueux qui écrivent, qui publient. Quand on retient ton livre à toi, tu sais, avec 8 autres sur les dizaines et les dizaines qui sortent, ça fait comme... Wow! C'est comme un chanteur qui va se retrouver avec un Félix ou une chose comme en nomination pour le Félix de l'année ou un truc comme ça. C'est sûr que ça fait une fleur.
On te souhaite évidemment la meilleure des chances et puis on invite les gens, pourquoi pas, Noël s'en vient. C'est un excellent, c'est un très, très beau cadeau à se faire et à offrir à quelqu'un qu'on aime aussi. Rappelle-moi le titre parce que je pense que je ne l'ai pas bien prononcé.
Ah non, ton Nino Aymon est très bon. Le titre, c'est Koukoum, K-U-K-U-M.
OK.
C'est donc Koukoum, qui veut dire grand-mère. C'est aux éditions Libre Expression. Il est disponible dans les librairies à Sorel. Je l'ai vu au Renaud-Bré, je l'ai vu chez Wilkie notamment. Fait que je pense que le livre est là, la couverture est magnifique. C'est Marie Paradis qui a fait la couverture, celle qui faisait les couvertures pour Kim Thuy, tous les romans de Kim Thuy.
Oui.
Fait que non, c'est un bel objet aussi. Donc je suis très fier. Et je me dis que c'est ma Koukoum qui veille un peu sur ce livre actuellement. Je ne peux pas y arriver rien de mal à ce livre-là.
Merci beaucoup, Michel. Je te souhaite un doux temps des fêtes.
Merci, Justine. Ça fait toujours plaisir de te parler. Bonjour à tout le monde. À la fin de la
Bye.